Bien, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Et nous allons lire à partir du verset 6, chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Apocalypse 8, à partir du verset 6. Nous lisons donc ceci. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Vous connaissez sans doute l'histoire qui nous est rapportée dans le livre de Josué au chapitre 6, lorsque le peuple d'Israël a été délivré de son esclavage en Égypte et après sa traversée dans le désert est entré dans la terre de la promesse et s'est présenté devant la ville de Jéricho. Et on lit dans le chapitre 6 que Dieu a ordonné que sept sacrificateurs marchent devant le peuple et fassent sonner sept trompettes pendant sept jours. Et le septième jour, ils devaient faire sept fois le tour de la ville. Et au dernier son de la trompette, le peuple devait pousser de grands cris et ensuite monter sur la ville de Jéricho. C'est ce qui s'est passé. Dieu a fait tomber les murs de la ville de Jéricho. Et au verset 16, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel, premier mot sur la feuille, l'Éternel vous a livré la ville. » Quand on arrive ici, donc, au livre de l'Apocalypse, à cette troisième description de l'histoire, où l'on voit des trompettes, on va chercher une intervention de Dieu qui est plus grande encore que son intervention à Jéricho. Les trompettes que l'on voit ici au chapitre 8 et qu'on verra aussi au chapitre 9 ont une portée qui est mondiale, qui couvre toute la terre et qui montre que ce monde, avec toute sa puissance, ne pourra pas empêcher le peuple de Dieu de connaître la victoire de leur foi. Christ va frapper la citadelle de ce monde. Il va frapper la forteresse du péché et de l'incrédulité. Il va le faire d'une telle manière que sa chute sera terrible, que son jugement sera sans pitié. Tout d'abord, les trompettes, deuxième mot sur la feuille. D'abord, que nous voyons-nous au niveau de la Bible quand elle utilise les trompettes dans la parole de Dieu, on sonnait des trompettes pour différentes raisons. On sonnait des trompettes, par exemple, pour appeler le peuple de Dieu à se rassembler pour une occasion importante, pour annoncer, par exemple, le début des fêtes, pour indiquer que c'était la sainte convocation On peut lire cela en Lévitique 23, par exemple. On a sonné les trompettes pour acclamer le roi Salomon quand il a accédé au trône de David. Et bien sûr, le Nouveau Testament nous dit que c'est au son d'une trompette que sera annoncé le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui appellera tous les élus de tous les coins de la terre à le rejoindre. Matthieu 24, les versets 30 et 31. Le prophète Joël, par exemple, va aussi associer les trompettes avec la venue de Dieu pour juger. Joël 2, verset 1. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Joël 2, verset 1. On sonnait donc les trompettes dans l'Ancien Testament pour rassembler le peuple de Dieu pour la bataille aussi, avant de partir en guerre. On a un exemple, par exemple, en Juges 3, verset 27, Éhud a sonné de la trompette pour rassembler la tribu d'Éphraïm avant de partir pour la bataille. Mais plus important encore, les trompettes signifiaient, quand elles étaient sonnées, signifiaient la venue de l'Éternel qui allait combattre pour son peuple. Et c'est ce que la signification de l'événement à Jéricho. Les trompettes ont sonné pour annoncer que c'est l'Éternel qui va livrer la ville pour son peuple. Et on va retrouver cela, par exemple, plus tard avec Gédéon et ses 300 hommes qui ont sonné de la trompette. Mais c'est l'Éternel qui a causé la fuite de Madian. Et donc, ça, c'est l'arrière-plan. Ça, c'est l'arrière-plan que l'on a dans l'Ancien Testament. Et quand on arrive ici, en Apocalypse 8 et au verset 6, et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner, on peut s'attendre à voir Dieu intervenir, troisième mot sur la feuille, intervenir dans l'histoire d'une manière encore plus éclatante pour vaincre ses ennemis. C'est comme un... Cela a été illustré à Jéricho. Dieu vient avec puissance pour combattre ses ennemis. Et comme avec Jéricho, les six premières trompettes sont les bases, sont des avertissements pour annoncer l'apothéose de la septième trompette qui va apporter la victoire décisive. Mais il y a aussi un parallèle entre les trompettes et ce qu'on a vu précédemment, par exemple, les cavaliers. Les cavaliers, dans les quatre premiers sceaux de l'Apocalypse, les cavaliers, rappelez-vous, ont apporté la guerre, la violence, la famine, la mort. Les quatre premières trompettes, on va le voir, vont relâcher les mêmes forces destructrices sur la terre. Les sceaux et les trompettes suivent la même progression. Les quatre premiers sons sont ouverts, les quatre premières trompettes sonnent, ensuite il y en a deux autres, ensuite il y a une pause, un interlude, et ensuite le dernier son, la dernière trompette qui décrive le retour de Christ qui vient pour juger. Et ce parallèle montre que les trompettes ne décrivent pas une nouvelle phase de l'histoire, on l'a déjà dit, mais il faut le souligner. Ce n'est pas quelque chose qui vient après les sceaux, les chapitres 6 et 7. Non, les trompettes récapitulent l'histoire avec une autre, nouvelle perspective. Elles décrivent les malheurs qui touchent la terre, le jugement qui touche la terre, avec une autre perspective que celle de l'ouverture des sceaux. Les sceaux, nous avons vu, décrivent les jugements, mais aussi ont aussi mis l'accent sur le fait que Dieu préserve son Église pour que celle-ci arrive au ciel, comme le chapitre 7, verset 14 dit, venant de la grande tribulation, qu'elle traverse cette grande tribulation pour arriver dans la gloire. La perspective des trompettes met l'accent sur le jugement du Seigneur qui est victorieux sur ses ennemis. Et un commentateur le résume de ceci, ainsi, il dit « Les sceaux décrivent le déroulement des desseins de Dieu pour la rédemption du point de vue du peuple de Dieu, de ceux qui sont scellés. Les trompettes décrivent la même réalité du point de vue de ceux qui ne sont pas scellés, de ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu. L'ouverture des sceaux apporte une grande consolation au peuple de Dieu. Le son des trompettes apporte de grands malheurs sur ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu. » Donc cela nous amène donc au deuxième point, l'interprétation, quatrième mot sur la feuille, l'interprétation de cette vision des trompettes. Et c'est quelque chose que nous avons cherché à veiller et que nous voulons veiller tout au long de l'étude de ce livre sur l'interprétation que nous apportons à ce livre. Il est clair que dans ce livre, on ne peut pas interpréter les visions de manière littérale. Par contre, les visions contiennent des symboles qui décrivent des réalités historiques. L'interprétation ne peut pas être littérale. Par contre, la réalité qui est derrière, elle est bien, l'histoire qui est derrière, elle est bien réelle. Et c'est très, très important, encore peut-être plus important quand on vient ici au passage avec les trompettes. Parce que si on ne fait pas attention, on peut arriver à des interprétations loufoques. Je vous en donne une. Il y a quelque temps, on va les appeler des experts en prophétie, ils se croyaient experts du moins, ont affirmé par exemple que la traduction absinthe, du mot absinthe que l'on voit au niveau de la troisième trompette, verset 11, que la traduction du mot absinthe en ukrainien, c'était Tchernobyl. Et après les catastrophes de 1986, ils ont dit, ben voilà, ça c'est ce qu'on lit ici sous la troisième trompette, c'est l'accomplissement de ce que décrit cette troisième trompette, hein, puisque Tchernobyl se traduit absinthe, etc. Mais en fait, cette traduction est incorrecte. Et les événements que l'on va voir sous la troisième trompette dépasse de loin la catastrophe de Tchernobyl. Mais avec une telle approche, la troisième trompette n'aurait eu aucun sens pour les chrétiens du 1er siècle jusqu'au 20e. Pratiquement 20 siècles, les chrétiens n'auraient pas pu comprendre, si on l'interprète de cette manière-là, n'auraient pas pu comprendre ce que signifie cette vision. Cette vision, cette interprétation-là, nous éloigne du sens du texte. Et on ne peut pas l'accepter. Donc il faut vraiment faire attention à l'interprétation. Mais comme nous avons déjà dit, l'Apocalypse va décrire, bien que l'Apocalypse utilise des symboles, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une fable, elle décrit bien l'histoire, elle décrit la réalité, mais il faut comprendre les symboles. Ensuite, on peut voir ce qui est représenté et qui est représenté par ces symboles. L'apôtre Jean ne tire pas ces images des journaux d'aujourd'hui. Mais il tire ces images de l'Ancien Testament. Et c'est donc en retournant à l'Ancien Testament que l'on peut comprendre la vision des sept trompettes. Et bien sûr, les autres symboles, et nous l'avons déjà fait, et nous continuerons de le faire. Que décrivent alors ces quatre premières trompettes? D'abord, elles vont décrire le jugement de Dieu sous la forme de bouleversement, cinquième mot sur la feuille, de bouleversement dans la nature. Si vous rappelez l'histoire en Josué, après la conquête de Jéricho, Dieu a combattu les ennemis avec des assauts de la nature, des bouleversements de la nature. En Josué 10, par exemple, verset 11, dans la bataille contre les cinq rois, Dieu a fait tomber de la grêle sur ses ennemis. Et on lit dans ce verset 11, Josué 10, Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Ils furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, avec l'épée par les enfants d'Israël. Et quand l'armée s'enfuit, Dieu a fait s'arrêter le soleil pour donner plus de lumière à Josué et à son armée. Josué 10, toujours, et les versets 12 et 13. Le soleil s'arrêta. La lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Dieu a utilisé Josué 10, versets 11, 12 et 13. Dieu, de la même manière, les quatre premières trompettes d'Apocalypse décrivent des plaies de la nature par lesquelles Dieu va frapper ses ennemis. Le plus grand exemple où Dieu utilise les événements de la nature montre son contrôle souverain sur les éléments de la nature. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé avant la délivrance du pays d'Égypte. Dans les 10 plaies qui précèdent l'exode d'Israël et qui précèdent la traversée de la mer Rouge et la traversée du désert, Dieu a montré qu'il contrôle absolument toutes choses, qu'il contrôle tous les éléments, toutes les puissances de la nature pour humilier les idoles d'Égypte, pour briser la volonté endurcie de Pharaon. Il contrôle tout cela. Et c'est quelque chose qu'il nous faut souligner, parce qu'il y a un parallèle clair, comme nous allons le voir, entre les plaies qui sont relâchées par le son des trompettes ici, et les plaies qui sont tombées sur le pays d'Égypte. Et ce parallèle va renforcer, bien sûr, l'idée que les trompettes de l'Apocalypse décrivent la guerre sainte contre les nations impies, le jugement de Dieu sur les nations impies. Une chose que les 10 plaies d'Égypte mettent en avant, c'est bien sûr l'intervention surnaturelle, sixième mot sur la feuille, l'intervention surnaturelle qu'on ne peut attribuer qu'à Dieu. Les pharaons, bien sûr, avaient envoyé ces magiciens pour s'opposer à Moïse, mais les magiciens n'ont pas pu suivre. Et en Exode 8, verset 15, ils sont retournés à Pharaon en disant « C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. » Et de la même manière, les bouleversements que nous allons voir dans ce passage décrivent ce jugement surnaturel, l'intervention surnaturelle de Dieu sur ce monde incrédule. Et tout comme Dieu a agi par Moïse pour briser l'emprise du Pharaon sur le peuple, ce peuple qui était retenu en esclavage, les plaies qui sont ici décrites par les quatre premières trompettes montrent que Dieu va humilier les puissances incrédules. Il va punir ce monde pour avoir persécuté l'Église. Certains commentateurs font remarquer que les plaies que Moïse annonce à Pharaon sont des plaies qui sont dirigées contre les faux dieux, contre les idoles que les Égyptiens adoraient. Et de la même manière, Apocalypse 8 nous montre que Dieu juge les idoles de ce monde, ces idoles dans lesquelles l'homme place sa confiance. Et alors que les plaies de l'Égypte auraient dû amener Pharaon à la repentance, elles ont au contraire endurci son cœur. Elles l'ont amené à la destruction finale. Et c'est la même chose avec les jugements de Dieu dans le cours de l'histoire. Une autre chose à remarquer dans ces jugements, c'est leur nature restrictive, septième mot sur la feuille. C'est leur nature restrictive. Au son de la première trompette, un tiers de la terre et des arbres est brûlé. Verset 7. La même chose est vraie pour les autres trompettes. Un tiers de la mer et de ses créatures et de ses navires, versets 8 et 9. Un tiers des fleuves, versets 10 et 11. Un tiers des objets célestes et de leur lumière, verset 12. Tout vient en jugement, oui. Mais ce qui est souligné, c'est que ce sont des jugements partiels. Ce n'est pas encore le jugement final, ce n'est pas encore le dernier jour de jugement. Non, ce sont des jugements qui annoncent la colère de Dieu à venir, qui avertissent ce monde du jugement final qui va être un jugement terrible. Les trompettes sonnent un avertissement. Elles laissent encore le temps à la repentance. Jusqu'à la dernière, jusqu'à la septième trompette. Ben, la septième trompette, il sera trop tard. Mais voyons donc les quatre trompettes. Troisième point. Les quatre premières trompettes. La première. Le premier ange, verset 7, sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. En Exode 9, nous lisons de la plaie de la grêle que Dieu a envoyée avec le feu sur l'Égypte. Exode 9, versets 24 et 25, « Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans le champ, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. » La première trompette rajoute le sang, sans doute pour souligner la perte de vie. Mais la plaie ne touche pas qu'un seul pays, la plaie touche toute la terre, même si elle ne détruit qu'un tiers de la terre. Elle touche toute la terre. Imaginez un tiers des grandes forêts détruites. Imaginez un tiers de la forêt de l'Amazonie détruite. Un désastre naturel sans précédent. Imaginez tous les pompiers de la terre qui essayent d'éteindre des feux qui sont des milliers de fois plus grands que ce qu'ils ont jamais connu. Les jugements de Dieu dans l'histoire ne vont pas seulement détruire les sources de la vie, huitième mot sur la feuille, mais ces jugements seront des choses que la science, la volonté, l'organisation de l'homme ne pourront pas gérer. Ce seront des choses incompréhensibles, au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Ils vont détruire, ces jugements vont détruire les sources de la vie. La deuxième trompette, le jugement tombe sur les mers. Le second ange, versets 8 et 9, le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Certains ont essayé, encore une fois, de faire le lien entre cette plaie et l'éruption du mont Vésuve en l'an 79, avec sa destruction. Mais on a ici quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transforme un tiers des mers en sang, qui détruit un tiers des créatures de la mer et des navires. Cette trompette, bien sûr, renvoie à la première plaie d'Égypte quand Moïse a frappé le Nil avec son bâton et que l'eau se transforme en sang. Le résultat, vous rappelez, en Égypte, a été que les poissons sont morts, que l'eau avait une odeur abominable, que on ne pouvait plus utiliser cette eau pour la consommation personnelle, Exode 7, versets 17 et suivants. Et de la même manière, cette plaie en Apocalypse va causer les mers à ne plus fournir les ressources économiques dont le monde dépend, puisqu'un tiers des poissons, un tiers des navires même, est détruit. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant pour l'Empire romain à la fin du 1er siècle, parce que l'Empire romain dépendait beaucoup de ces échanges commerciaux par les mers. Mais il y a un point important dans cette plaie, c'est cette grande montagne qui est embrasée par le feu et jetée dans la mer. Et ces propos nous viennent du livre de Jérémie. Et là, le prophète Jérémie parle de Babylone dans ce sens. Jérémie 51, verset 25, Dieu parle de Babylone et il dit ceci, « Montagne de destruction qui détruisait toute la terre. » Il promet ensuite, « J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. » Verset 42, toujours Jérémie 51, « La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. » Et Babylone est un symbole. La Babylone, au temps de Jean, était Rome, mais la Babylone aussi représente l'Égypte au temps de Moïse. Cette trompette décrit la destruction des empires, 9e mot sur la feuille, la destruction des empires de ce monde qui tombe en flammes dans la mer et apporte le malheur à la terre. La destruction des empires de ce monde, 9e mot sur la feuille. La troisième trompette, et là l'imagerie devient peut-être encore plus parlante. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en Absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Versets 10 et 11. Une étoile tombe, non sur la mer, mais dans les eaux intérieures pour empoisonner une partie des sources et tuer beaucoup de personnes. L'étoile montre l'origine céleste de la catastrophe. Cela vient de Dieu. Et son nom révèle la plaie, l'absinthe. Avant d'être un spiritueux, l'absinthe est une plante avec différentes vertus. Un autre nom qu'on lui donne, c'est armoise amère, parce qu'elle rendait l'eau imbuvable. Et par exemple, en Lamentation 3, verset 15, nous lisons ceci, « Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. » La troisième plaie peut aussi faire allusion à la chute des puissances mondiales. Et là, on a une connexion avec ce que nous lisons en Ésaïe, chapitre 14, et les versets 12 à 15. Et là, dans ce passage d'Ésaïe 14, Dieu compare le roi de Babylone à une étoile qui est tombée. Et comme Satan avant lui, Nebuchadnezzar cherchait à s'élever au-dessus de Dieu. Et il disait en son cœur, Ésaïe 14, versets 13 à 14, « Je monterai au ciel, j'éleverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et lorsque Dieu va le juger, il déclare ceci, Ésaïe 14, verset 15, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Et donc le point qui est fait ici, c'est que Dieu juge les prétentions impériales des idolâtres, 10e mot sur la feuille. Il juge les prétentions idolâtres, les prétentions impériales des idolâtres, que ce soit de la part de Babylone, que ce soit de la part de Rome, ou plus récemment de l'Allemagne nazie, de la Russie communiste, ou de l'Occident qui se veut laïque. Leur idolâtrie est amère parce qu'elle va polluer toutes les sources de la vie, comme le mariage, comme la famille, comme la société civile, comme les relations au sein de la société. Leur idolâtrie est amère et Dieu va juger cette idolâtrie. L'histoire montre que Dieu juge constamment l'homme idolâtre. Il rend amère la vie de ceux qui veulent s'élever au-dessus de lui. L'absinthe est le mot qui désigne, qui résume bien la conséquence du péché, ce péché qui vient ruiner la vie dans sa totalité, ce péché qui nous éloigne de Dieu. Dieu parle de ses conséquences, des conséquences spirituelles, par exemple en Jérémie 9, verset 15. « Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. » Dieu va rendre amère l'idolâtrie de ceux qui veulent s'élever au-dessus de lui. Il juge. La quatrième trompette. La quatrième trompette décrit le jugement dans le ciel qui apporte les ténèbres sur la terre. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Verset 12. Et là encore, cette quatrième trompette montre que l'on ne doit pas chercher un accomplissement littéral pour ces trompettes. Parce que l'idée qu'une seule partie du soleil ne brille ou qu'une seule partie de la lune ne brille, avec un tiers de la jour, un tiers de la nuit, ça n'a aucun sens, littéralement. Jean, ici, n'est pas en train d'écrire un traité d'astronomie. Non, il utilise des images, nous l'avons déjà souligné. Et le point qui est souligné ici par cette quatrième trompette, c'est que Dieu contrôle, bien sûr, toutes choses, même les astres célestes, puisqu'il peut apporter l'obscurité du jugement sur ses ennemis. Onzième mot sur la feuille. Il peut apporter l'obscurité, il peut juger ses ennemis n'importe où et n'importe quand. Eh bien, qu'ici, il ne juge qu'un tiers, encore une fois, c'est partiel, c'est pas le jugement final, mais eh bien qu'il ne juge que partiellement et qu'il n'enlève que partiellement une partie des sources de lumière. C'est une manière aussi d'avertir les hommes qu'un jour viendra pour tous ceux qui s'opposent à lui, tous ses ennemis, un jour viendra l'obscurité totale s'ils ne se repentent pas. L'obscurité décrit l'enlèvement de toute bénédiction de la part de Dieu. C'est ceux qui vivent loin de Dieu, ceux qui vivent sous la malédiction du péché, vivent dans l'obscurité. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a subi la condamnation, a pris sur lui nos péchés, sur la croix, qu'il a subi la condamnation à notre place. L'obscurité est tombée. Tomber dans l'obscurité, c'est être condamné par le péché. C'est être coupé de toute bénédiction venant de la part de Dieu. Dieu qui est lumière. 1 Jean 1, verset 5. Rappelez-vous, en Exode, verset 10, Dieu avait placé la plaie des ténèbres pour 3 jours sur le pays d'Égypte. Mais la partie où habitait le peuple d'Israël, elle, ne connaissait pas cette obscurité. Cela nous rappelle que ce n'est que en Christ, par la foi qui nous unit à Christ, que l'on vient à la lumière, que l'on échappe à l'obscurité du jugement, l'obscurité du péché. Jean avait dit au début de son évangile, Jean 1, verset 4, « En elle, en la parole, c'est-à-dire Christ, était la vie, et la vie est la lumière des hommes. » Encore une fois, on se rappelle que ce livre de l'Apocalypse n'est pas un livre d'énigmes, comme beaucoup voudraient le faire croire. Ce n'est pas un livre d'énigmes qu'il faut essayer de résoudre. C'est un livre d'images. Les images, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Les quatre trompettes, donc, placent le centre de la colère de Dieu sur ceux qui sont séparés de lui par leur incrédulité. Et Dieu va avertir par ces quatre premières trompettes d'un jugement plus grand à venir, d'un feu plus intense, une destruction totale et l'obscurité qui durera éternellement lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient au son de la septième trompette. Quel est le message ? Quatrième point. Le message des trompettes, c'est le douzième mot sur la feuille. Quel est le message de ces trompettes ? Nous avons dit que nous ne devons pas interpréter ces trompettes de manière littérale. Par contre, le jugement de Dieu sur l'histoire, ce jugement qui est décrit par ces trompettes, est un jugement qui est bien réel. Le but de ces calamités que l'on voit est de montrer que tout ce que l'homme imagine, tous ses schémas, son utopie, tout cela est voué à l'échec. C'est aussi une manière d'avertir les idolâtres de l'amertume que le péché apporte sur la terre et du jugement qui va arriver, ce jugement final. Et pour que cela soit bien clair, le verset 13 nous décrit un aigle qui vole très haut au-dessus de la terre. Un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Un aigle qui vole, qui cherche sa proie. Ce terme pourrait aussi être traduit par « vautour ». De toute façon, c'est un charognard, c'est un oiseau qui regarde la terre, qui espère manger de la chair humaine. Et les trois malheurs qu'il va prononcer, donc avertissent des grands jugements que l'on verra dans les trois dernières trompettes. Les bouleversements dans la nature sont des avertissements qui sont donnés à l'humanité. Et l'aigle nous dit que l'on doit craindre encore plus les conséquences spirituelles du péché. Ces jugements spirituels, nous les verrons, Dieu voulant, au chapitre 9, la prochaine fois. L'avertissement, donc, de l'aigle rend trois choses très claires. La première, c'est que Dieu est certain de juger, 13e mot sur la feuille, il est certain de juger le péché et de manière terrible. Le monde peut regarder les jugements qui sont symboliquement représentés ici, et puis le monde va critiquer le Dieu de la Bible. Il va dire, mais quel genre de Dieu avez-vous là? Un Dieu qui jette le feu sur la terre et la mer, qui rend amères les sources de l'eau, les sources de la vie, qui met le monde dans l'obscurité. La réponse de la Bible nous dirige vers le Dieu qui est saint, qui est trois fois saint, qui ne peut pas voir le mal. Un Dieu qui brûle d'une sainte colère contre les péchés de l'humanité. Quand Adam est tombé dans le péché, Dieu lui a dit que l'ordre naturel des choses a été maudit. Genèse 3, 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. » Genèse 3, 17. Les plaies des quatre trompettes nous montrent que l'humanité entière ne pourra jamais échapper à la malédiction de Dieu, sauf par la repentance et la foi, la réconciliation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dieu continue de juger le péché, quand Dieu a déclaré à Adam qu'il avait maudit, que le sol serait maudit, il ne s'est pas arrêté là. Non, Dieu continue de punir le péché, de punir la rébellion et d'appeler à la repentance jusqu'à la septième trompette. Quelqu'un a résumé cela en disant « Il n'y a pas de désastre naturel dans un monde qui est gouverné par Dieu. » Il n'y a pas de désastre naturel. Non, lorsque nous voyons ces désastres qui balayent tout avec leur destruction, lorsque nous voyons ces calamités qui viennent, qui tombent sur ce monde, Nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui est en train de nous rappeler qu'il y a un jugement qui vient. Un jugement qui sera sur toute la terre, sur toute l'humanité. Et il veut nous avertir et nous pousser, nous amener à la repentance, à la foi, pour que nous soyons sauvés. Dieu est certain de juger. Il va juger, c'est une certitude. La deuxième chose que nous avons ici, c'est que ces allusions constantes aux plaies d'Égypte soulignent pour nous, le peuple de Dieu, pour ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu est déterminé à délivrer, 14e mot sur la feuille, à délivrer son peuple de l'oppression du monde. Rappelons-nous que Jean est en train d'écrire à des églises qui, à la fin du 1er siècle, sont sur le point de connaître la persécution de la part de l'empereur Domitien. On pourrait dire l'équivalent de Pharaon. Il y a un symbole, le lien entre les deux, on verra plus tard. Mais il ne s'agit pas simplement de l'empereur Domitien de Rome et de sa persécution. Un commentateur dit ceci, la typologie égyptienne est une manière emphatique, c'est-à-dire une manière pour souligner, une manière emphatique de dire que les désastres d'aujourd'hui ne sont que le prélude de la grande délivrance à venir. Dans chaque son d'une trompette céleste, Dieu dit au pharaon de la nouvelle Égypte, « Laisse aller mon peuple. » En même temps, il dit aux chrétiens, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » C'est Luc 21, 28. Et donc, quand on voit les calamités dans ce monde, tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui, on doit se rappeler de deux choses. D'une part, que le jugement a déjà été prononcé pour nous à la croix. Mais que d'autre part, que ces calamités ne sont que les prémices d'un jugement bien plus grand par lequel Dieu va détruire les puissances qui s'opposent à la vérité, qui s'opposent à Christ. Et il va amener son peuple à la délivrance parfaite dans la gloire. Comme nous avons été libérés de la condamnation et de la puissance du péché par le sang de Christ, Dieu nous libérera de toutes les puissances pour nous amener à la jouissance de sa victoire en Christ. Dieu est déterminé à délivrer son peuple des puissances qui l'oppriment dans ce monde. Il va juger, c'est une certitude. Il va délivrer, et il va le faire. La troisième chose, c'est que dans le son des trompettes, on entend aussi notre appel à suivre le Seigneur Jésus. 15e mot sur la feuille. Les trompettes, comme nous l'avons dit, soulignent ce que Dieu va faire, comme les trompettes de Josué ont signalé l'action de Dieu. Mais comme Josué et les Israélites, nous sommes appelés à suivre, à avancer à la suite de l'étendard de Dieu. Nous devons persévérer en élevant nos cœurs dans l'adoration, quelles que soient les restrictions qu'impose le monde sur nous. Nous devons continuer à parler de la vérité de la parole de Dieu, à porter un témoignage à la fois au jugement que Dieu réserve pour le péché, mais aussi au pardon gratuit que Dieu offre par la foi en Jésus-Christ. Nous devons continuer à crier à Dieu dans la prière, sachant qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit la dernière fois, Dieu nous entend et il répond. Et parfois il répondra même avec les trompettes du ciel. Les trompettes sonnent pour annoncer la victoire de Dieu par Jésus-Christ sur ce monde. Par sa grâce, nous aussi nous allons triompher. Pas avec une puissance du monde, pas avec une réussite en termes humains, mais en accomplissant notre vocation en tant que peuple de Dieu, et en le suivant là où il nous mène. Un peu plus loin, nous verrons entre les trompettes 6 et 7 une autre vision qui met les choses au clair. Quand les anges sont émerveillés, non seulement à cause du Seigneur Jésus, mais aussi à cause de l'Église, à cause de nous. Et on lit ceci en Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu, parlant des croyants. Ils l'ont vaincu, ils ont vaincu l'accusateur à cause, d'une part, du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les trompettes de l'Apocalypse, donc, avertissent du jugement à venir. Elles annoncent l'intervention de Dieu, la délivrance de son peuple. Et elles nous appellent à le suivre. Que Dieu nous aide à comprendre cela et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Amen.